In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Chapitre 5 de Aventures d'Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carroll. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Linda Olsen-Faytak, Los Angeles. Conseil d'une chenille. La chenille et Alice se considérèrent un instant en silence. Enfin, la chenille sortit le houka de sa bouche et lui adressa la parole d'une voix endormie et traînante. « Qui êtes-vous ? » dit la chenille. Ce n'était pas là une manière encourageante d'entamer la conversation. Alice répondit, un peu confuse. « Je le sais à peine moi-même, quant à présent. Je sais bien ce que j'étais en me levant ce matin, mais je crois avoir changé plusieurs fois depuis. Qu'entendez-vous ? Par là, dit la chenille d'un ton sévère. Expliquez-vous. Je crains bien de ne pouvoir pas m'expliquer, dit Alice, car, voyez-vous, je ne suis plus moi-même.
Je ne vois pas du tout, répondit la chenille.
J'ai bien peur de ne pouvoir pas dire les choses plus clairement, répliqua Alice fort poliment, car d'abord, je n'y comprends rien moi-même. Grandir et rapetisser si souvent, en un seul jour, cela embrouille un peu les idées.
Pas du tout. « Tout !» dit la chenille.
« Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore aperçu, » dit Alice. « Mais quand vous deviendrez chrysalide, car c'est ce qui vous arrivera, sachez-le bien, et ensuite papillon, je crois bien que vous vous sentirez un peu drôle, qu'en dites-vous »«
Pas du tout !» dit la chenille.
« Vos sensations sont peut-être différentes des miennes, » dit Alice. « Tout ce que je sais, c'est que cela me semblerait bien drôle à moi. »«
À vous ?»
dit la chenille, d'un ton de mépris.
« Qui êtes-vous ?»
Cette question les ramena au commencement de la conversation. Alice, un peu irritée du parler bref de la chenille, se redressa de toute sa hauteur et répondit bien gravement. « Il me semble que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes vous-même. »«
Pourquoi ?»
dit la chenille. C'était encore là une question bien embarrassante, et comme Alice ne trouvait pas de bonne raison à donner, et que la chenille avait l'air de très mauvaise humeur, Alice lui tourna le dos et s'éloigna.
« Revenez !»
lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » L'invitation était engageante, assurément. Alice revint sur ses pas.
« Ne vous emportez pas !» dit la chenille.
« Est-ce tout ?» dit Alice, cherchant à retenir sa colère.
Non,
répondit la chenille. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien d'attendre, et qu'après tout, la chenille lui dirait peut-être quelque chose de bon à savoir. La chenille continua de fumer pendant quelques minutes sans rien dire. Puis, retirant enfin la pipe de sa bouche, elle se croisa les bras et dit
« Ainsi, vous vous figurez que vous êtes changé, hein ?
Je le crains bien, dit Alice. Je ne peux plus me souvenir des choses comme autrefois, et je ne reste pas 10 minutes de suite de la même grandeur.
De quoi ?
Est-ce que vous ne pouvez pas vous souvenir ? Dit la chenille.
J'ai essayé de réciter la fable de Maître Corbeau, mais ce n'était plus la même chose, répondit Alice d'un ton chagrin.
Récitez. Vous êtes vieux, père Guillaume, dit la chenille.
Alice croisa les mains et commença.
Vous êtes vieux, père Guillaume. Vous avez des cheveux tout gris. La tête en bas, père Guillaume. À votre âge, c'est peu permis. Étant jeune pour ma cervelle, je craignais fort, mon cher enfant. Je n'en ai plus une parcelle, j'en suis bien certain maintenant.
Vous êtes vieux, je vous l'ai dit, mais comment donc par cette porte, vous, dont la taille est comme un muet, cabriolez-vous de la sorte?
Étant jeune, mon cher enfant, j'avais chaque jointure bonne. Je me frottais de cet onguent. Si vous payez, je vous en donne.
Vous êtes vieux, et vous mangez les os comme de la bouillie, et jamais rien ne me laissez. Comment faites-vous, je vous prie?
Étant jeune, je disputais tous les jours avec votre mère. C'est ainsi que je me suis fait un si puissant os maxillaire.
Vous êtes vieux, par quelle adresse tenez-vous debout sur le nez une anguille qui se redresse droit comme un nid quand vous sifflez?
Cette question est trop sotte. Cessez de babiller ainsi, ou je vais, du bout de ma botte, vous envoyer bien loin d'ici.
Ce n'est pas cela, dit la chenille.
Pas tout à fait, je le crains bien, dit Alice timidement. Tous les mots ne sont pas les mêmes.
C'est tout de travers d'un bout à l'autre, dit la chenille d'un ton décidé. Et il se fit un silence de quelques minutes. La chenille fut la première à reprendre la parole.
De quelle grandeur « voulez-vous être ?» demanda-t-elle.
« Oh, je ne suis pas difficile quant à la taille, » reprit vivement Alice. « Mais vous comprenez bien qu'on n'aime pas à en changer si souvent. »«
Je ne comprends pas du tout, » dit la chenille.
Alice se tut. Elle n'avait jamais de sa vie été si souvent contredite. Et elle sentait qu'elle allait perdre patience.
Êtes-vous satisfaite maintenant ? Dit la chenille.
J'aimerais bien être un petit peu plus grande, si cela vous était égal, dit Alice. 3 pouces de haut, c'est si peu.
C'est une très belle taille, dit la chenille en colère, se dressant de toute sa hauteur.
Elle avait tout juste 3 pouces de haut.
« Mais je n'y suis pas habituée, » répliqua Alice d'un ton piteux, et elle fit cette réflexion. « Je voudrais bien que ces gens-là ne fussent pas si susceptibles. »«
Vous finirez par vous y habituer, » dit la chenille. Elle remit la pipe à sa bouche et fuma de plus belle. Cette fois, Alice attendit patiemment qu'elle se décida à parler. Au bout de 2 ou 3 minutes, la chenille sortit le houka de sa bouche, bâilla 1 ou 2 fois et se secoua. Puis, elle descendit de dessus le champignon, glissa dans le gazon, et dit tout simplement en s'en allant. Un côté vous fera grandir et l'autre vous fera rapetisser.
Un côté de quoi? L'autre côté de quoi? Pensa Alice. Dieu champignon, dit la chenille, comme si Alice avait parlé tout haut. Et un moment après, la chenille avait disparu. Alice contempla le champignon d'un air pensif pendant un instant, essayant de deviner quels en étaient les côtés. Et comme le champignon était tout rond, elle trouva la question fort embarrassante. Enfin, elle étendit ses bras tout autour en les allongeant autant que possible et de chaque main enleva une petite partie du bord du champignon. Maintenant, lequel des deux ? Se dit-elle. Et elle grignota un peu du morceau de la main droite pour voir quel effet il produirait. Presque aussitôt, elle reçut un coup violent sous le menton. Il venait de frapper contre son pied. Ce brusque changement lui fit grand-peur, mais elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle diminuait rapidement. Elle se mit donc bien vite à manger un peu de l'autre morceau. Son menton était si rapproché de son pied qu'il y avait à peine assez de place pour qu'elle pût ouvrir la bouche. Elle y réussit enfin et parvint à avaler une partie du morceau de la main gauche. « Voilà enfin ma tête libre, » dit Alice, d'un ton joyeux qui se changea bientôt en cri d'épouvante quand elle s'aperçut de l'absence de ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant en bas, c'était un cou long à n'en plus finir qui semblait se dresser comme une tige du milieu d'un océan de verdure s'étendant bien loin au-dessous d'elle. « Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ?» dit Alice. « Et où donc sont mes épaules ? Oh, mes pauvres mains ! Comment se fait-il que je ne puis vous voir ?» Tout en parlant, elle agitait les mains, mais il n'en résulta qu'un petit mouvement au loin parmi les feuilles vertes. Comme elle ne trouvait pas le moyen de porter ses mains à sa tête, elle tâcha de porter sa tête à ses mains et s'aperçut avec joie que son cou se repliait avec aisance de tous côtés comme un serpent. Elle venait de réussir à le plier en un gracieux zigzag et à les plonger parmi les feuilles qui étaient tout simplement le haut des arbres sous lesquels elle avait erré quand un sifflement aigu la força de reculer promptement. Un gros pigeon venait de lui voler à la figure et lui donnait de grands coups d'aile. « Serpent !» criait le pigeon. « Je ne suis pas un serpent, » dit Alice avec indignation. « Laissez-moi tranquille. »« Serpent, je le répète, » dit le pigeon, mais d'un ton plus doux. Puis il continua avec une espèce de sanglot.
« J'ai essayé de toutes les façons. Rien ne semble les satisfaire. »«
Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire, » répondit Alice.
« J'ai essayé des racines d'arbres, j'ai essayé des talus, j'ai essayé des haies, » continua le pigeon, sans faire attention à elle. « Mais ces serpents, il n'y a pas moyen de les satisfaire. »
Alice était de plus en plus intriguée, mais elle pensa que ce n'était pas la peine de rien dire avant que le pigeon eût fini de parler.
« Je n'ai donc pas assez de mal à couver mes œufs, » dit le pigeon. « Il faut encore que je guette les serpents nuit et jour. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 3 semaines. »«
Je suis fâchée que vous ayez été tourmentée, » dit Alice, qui commençait à comprendre.
« Au moment où je venais de choisir l'arbre le plus haut de la forêt, » continua le pigeon en élevant la voix jusqu'à crier. « Au moment où je me figurais que j'allais en être enfin débarrassée, « les voilà qui tombent du ciel en replis tortueux. Oh, le vilain serpent !»«
Mais je ne suis pas un serpent, » dit Alice. « Je suis une... je suis... »«
Eh bien, qu'êtes-vous ?
Dit le pigeon.
Je vois que vous cherchez à inventer quelque chose.
Je suis une petite fille, répondit Alice avec quelque hésitation, car elle se rappelait combien de changements elle avait éprouvés ce jour-là.
Voilà une histoire bien vraisemblable, dit le pigeon d'un air de profond mépris. J'ai vu bien des petites filles dans mon temps, mais je n'en ai jamais vu avec un cou comme cela. Non, non, vous êtes un serpent. Il est inutile de le nier. Vous allez sans doute me dire que vous n'avez jamais mangé de...
Si fait, j'ai mangé des œufs, dit Alice, qui ne savait pas mentir. Mais vous savez que les petites filles mangent des œufs aussi bien que les serpents.
Je n'en crois rien, dit le pigeon. Mais s'il en est ainsi, elles sont une espèce de serpent. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Cette idée était si nouvelle pour Alice qu'elle resta muette pendant une ou deux minutes, ce qui donna au pigeon le temps d'ajouter.
Vous cherchez des œufs, ça, j'en suis bien sûre. Et alors, que m'importe que vous soyez une petite fille ou un serpent ?
Cela m'importe beaucoup à moi, dit Alice vivement, mais je ne cherche pas d'œufs, justement. Et quand même j'en chercherai, je ne voudrais pas des vôtres. Je ne les aime pas crus.
Eh bien, allez-vous-en alors, dit le pigeon d'un ton boudeur en se remettant dans son nid.
Alice se glissa parmi les arbres du mieux qu'elle put en se baissant, car son cou s'entortillait dans les branches, et à chaque instant, il lui fallait s'arrêter et le désentortiller. Au bout de quelque temps, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les morceaux de champignons, et elle se mit à l'œuvre avec grand soin, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, et tantôt grandissant, tantôt rapetissant, jusqu'à ce qu'enfin, elle parvint à se ramener à sa grandeur naturelle. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait été d'une taille raisonnable que cela lui parut d'abord tout drôle, mais elle finit par s'y accoutumer et commença à se parler à elle-même comme d'habitude. « Allons, voilà maintenant la moitié de mon projet exécuté. Comme tous ces changements sont embarrassants, je ne suis jamais sûre de ce que je vais devenir d'une minute à l'autre. Toutefois, je suis redevenue de la bonne grandeur. Il me reste maintenant à pénétrer dans ce magnifique jardin. Comment faire ? » En disant ces mots, elle arriva tout à coup à une clairière où se trouvait une maison d'environ 4 pieds de haut. Quels que soient les gens qui demeurent là, pensa Alice, il ne serait pas raisonnable de se présenter à eux, grande comme je suis. Ils deviendraient fous de frayeur. Elle se mit de nouveau à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite et ne s'aventura pas près de la maison avant d'avoir réduit sa taille à 9 pouces. Fin du chapitre 5.
Chapitre 6 de Alice au pays des merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Traduit par Henri Buet. Chapitre 6. Porc et poivre. Alice resta une ou deux minutes à regarder à la porte. Elle se demandait ce qu'il fallait faire quand tout à coup un laquais en livrée sortit du bois en courant. Elle le prit pour un laquais à cause de sa livrée, Sans cela, à n'en juger que par la figure, elle l'aurait pris pour un poisson. Il frappa fortement avec son doigt à la porte. Elle fut ouverte par un autre laquais en livrée qui avait la face toute ronde et de gros yeux comme une grenouille. Alice remarqua que les deux laquais avaient les cheveux poudrés et tout frisés. Elle se sentit piquer de curiosité et, voulant savoir ce que tout cela signifiait, elle se glissa un peu en dehors du bois afin d'écouter. Le laquais poisson prit de dessous son bras une lettre énorme, presque aussi grande que lui, et la présenta au laquais grenouille en disant d'un ton solennel « Pour madame la duchesse, une invitation de la reine à une partie de croquet. » Le laquais grenouille répéta sur le même ton solennel, en changeant un peu l'ordre des mots « De la part de la reine, une invitation pour madame la duchesse à une partie de croquet. » Puis tous deux se firent un profond salut et les boucles de leurs chevelures s'entremêlèrent. Cela fit tellement rire Alice qu'elle eut à rentrer bien vite dans le bois de peur d'être entendue. Et quand elle avança la tête pour regarder de nouveau, le laquais poisson était parti et l'autre était assis par terre près de la route regardant niaisement en l'air. Alice s'approcha timidement de la porte et frappa. « Cela ne sert à rien du tout de frapper, » dit le laquais. « Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis du même côté de la porte que vous. Deuxièmement, parce qu'on fait là-dedans un tel bruit que personne ne peut vous entendre. » En effet, il se faisait dans l'intérieur un bruit extraordinaire, des hurlements et des éternuements continuels, et de temps à autre, un grand fracas, comme si on brisait de la vaisselle. « Eh bien, comment puis-je entrer, s'il vous plaît ?» demanda Alice. Il y aurait quelque bon sens à frapper à cette porte, continua le laquais sans l'écouter, si nous avions la porte entre nous deux. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper et je pourrais vous laisser sortir. Il regardait en l'air tout le temps qu'il parlait et Alice trouvait cela très impoli. Mais peut-être ne peut-il pas s'en empêcher, dit-elle. Il a les yeux presque sur le sommet de la tête. Dans tous les cas, il pourrait bien répondre à mes questions. « Comment faire pour entrer ? » répéta-t-elle tout haut. « Je vais rester assis ici, dit le laquais, jusqu'à demain. » Au même instant, la porte de la maison s'ouvrit et une grande assiette vola tout droit dans la direction de la tête du laquais. Elle lui effleura le nez et alla se briser contre un arbre derrière lui. « Ou le jour suivant, peut-être, continua le laquais sur le même ton, tout comme si rien n'était arrivé. » « Comment faire pour entrer ?» redemanda Alice en élevant la voix. « Mais devriez-vous entrer ? » dit le laquais. « C'est ce qu'il faut se demander, n'est-ce pas ?» Bien certainement, mais Alice trouva mauvais qu'on le lui dit. « C'est vraiment terrible, murmura-t-elle, de voir la manière dont ces gens la discutent, il y a de quoi rendre fou. » Le laquais trouva l'occasion bonne pour répéter son observation avec des variantes. « Je resterai assis ici, dit-il, l'un dans l'autre, pendant des jours et des jours. »« Mais que faut-il que je fasse ? » dit Alice. « Tout ce que vous voudrez, dit le laquais, et il se mit à siffler. « Oh, ce n'est pas la peine de lui parler, dit Alice, désespérée. C'est un parfait idiot. » Puis elle ouvrit la porte et entra. La porte donnait sur une grande cuisine qui était pleine de fumée d'un bout à l'autre. La duchesse était assise sur un tabouret à trois pieds au milieu de la cuisine et dorlotait un bébé. La cuisinière, penchée sur le feu, brassait quelque chose dans un grand chaudron qui paraissait rempli de soupe. « Bien sûr, il y a trop de poivre dans la soupe, » se dit Alice, tout empêchée par les éternuements. Il y en avait certainement trop dans l'air. La duchesse elle-même éternuait de temps en temps, et quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement sans aucune interruption. Les deux seules créatures qui n'éternuassent pas étaient la cuisinière et un gros chat assis sur l'âtre et dont la bouche grimaçante était fendue d'une oreille à l'autre. « Pourriez-vous m'apprendre ? » dit Alice un peu timidement, car elle ne savait pas s'il était bien convenable qu'elle parlât la première. « Pourquoi votre chat grimace ainsi ?»« C'est un grimaçon, » dit la duchesse. « Voilà pourquoi. Port !» Elle prononça ce dernier mot si fort et si subitement qu'Alice en frémit. Mais elle comprit bientôt que cela s'adressait au bébé et non pas à elle. Elle reprit donc courage et continua. J'ignorais qu'il y eût des chats de cette espèce. Au fait, j'ignorais qu'un chat pût grimacer. Ils peuvent tous, dit la duchesse, et la plupart le font. Je n'en connais pas un qui grimace, dit Alice poliment, bien contente d'être entrée en conversation. Le fait est que vous ne savez pas grand-chose, dit la duchesse. Le ton sur lequel fut faite cette observation ne plut pas du tout à Alice, et elle pensa qu'il serait bon de changer la conversation. Tandis qu'elle cherchait un autre sujet, la cuisinière retira de dessus le feu le chaudron plein de soupe et se mit aussitôt à jeter tout ce qui lui tomba sous la main à la duchesse et au bébé, la pelle et les pincettes d'abord, à leur suite vint une pluie de casseroles, d'assiettes et de plats. La duchesse n'y faisait pas la moindre attention, même quand elle en était atteinte, et l'enfant hurlait déjà si fort auparavant qu'il était impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. « Oh, je vous en prie, prenez garde à ce que vous faites !» criait Alice, sautant çà et là et en proie à la terreur. « Oh, son cher petit nez !» Une casserole d'une grandeur peu ordinaire venait de voler tout près du bébé et avait failli lui emporter le nez. « Si chacun s'occupait de ses affaires, dit la duchesse avec un grognement rauque, le monde n'en irait que mieux. « Ce qui ne serait guère avantageux, dit Alice, enchantée qu'il se présentât une occasion de montrer un peu de son savoir. « Songez à ce que deviendrait le jour et la nuit. Vous voyez bien, la terre met 24 heures à faire sa révolution. « Ah, vous parlez de faire des révolutions, dit la duchesse, qu'on lui coupe la tête. » Alice jeta un regard inquiet sur la cuisinière pour voir si elle allait obéir. Mais la cuisinière était tout occupée à brasser la soupe et paraissait ne pas écouter. Alice continua donc. « 24 heures, je crois, ou bien 12, je pense. »« Oh, laissez-moi en paix, dit la duchesse, je n'ai jamais pu souffrir les chiffres. » Et là-dessus, elle recommença à dorloter son enfant, lui chantant une espèce de chanson pour l'endormir et lui donnant une forte secousse au bout de chaque verre. Grondez-moi ce vilain garçon, battez-le quand il éternue, à vous taquiner sans façon le méchant enfant ses vertus. Refrain que reprirent en chœur la cuisinière et le bébé, brou brou brou, bis. En chantant le second couplet de la chanson, la duchesse faisait sauter le bébé et le secouait violemment, si bien que le pauvre petit être hurlait, au point qu'Alice put à peine entendre ces mots. « Oui, oui, je m'en vais le gronder et le battre s'il éternue, car bientôt, à savoir poivrer, je veux que l'enfant s'habitue. » Refrain, brou, 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 bis. « Tenez, vous pouvez le dorloter si vous voulez, » dit la duchesse à Alice. Et à ces mots, elle lui jeta le bébé. « Il faut que j'aille m'apprêter pour aller jouer au croquet avec la reine. » Et elle se précipita hors de la chambre. La cuisinière lui lança une poêle comme elle s'en allait, mais elle la manqua tout juste. Alice eut de la peine à attraper le bébé. C'était un petit être d'une forme étrange qui tenait ses bras et ses jambes étendus dans toutes les directions. « Tout comme une étoile de mer, » pensait Alice. La pauvre petite créature ronflait comme une machine à vapeur lorsqu'elle l'attrapa et ne cessait de se plier en deux, puis de s'étendre tout droit, de sorte qu'avec tout cela, pendant les premiers instants, c'est tout ce qu'elle pouvait faire que de le tenir. Sitôt qu'elle eut trouvé le bon moyen de le bercer, qui était d'en faire une espèce de nœud, puis de le tenir fermement par l'oreille droite et le pied gauche afin de l'empêcher de se dénouer, elle le porta dehors en plein air. « Si je n'emporte pas cet enfant avec moi, » pensa Alice, « ils le tueront, bien sûr, un de ces jours. Ne serait-ce pas un meurtre de l'abandonner ?» Elle dit ces derniers mots à haute voix, et la petite créature répondit en grognant. Elle avait cessé d'éternuer alors. « Ne grogne pas ainsi, » dit Alice, « ce n'est pas là du tout une bonne manière de s'exprimer. » Le bébé grogna de nouveau. Alice le regarda au visage avec inquiétude pour voir ce qu'il avait. Sans contredit, son nez était très retroussé et ressemblait bien plutôt à un groin qu'à un vrai nez. Ses yeux aussi devenaient très petits pour un bébé. Enfin, Alice ne trouva pas du tout de son goût l'aspect de ce petit être. « Mais peut-être sanglotait-il tout simplement, » pensa-t-elle. Et elle regarda de nouveau les yeux du bébé pour voir s'il n'y avait pas de larmes. « Si tu vas te changer en porc, » dit Alice très sérieusement, « je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Fais-y bien attention. » La pauvre petite créature sanglota de nouveau, ou grogna, il était impossible de savoir lequel des deux, et ils continuèrent leur chemin un instant en silence. Alice commençait à se dire en elle-même « Mais que faire de cette créature quand je l'aurai portée à la maison ?» lorsqu'il grogna de nouveau si fort qu'elle regarda sa figure avec quelque inquiétude. Cette fois, il n'y avait pas à s'y tromper, c'était un porc, ni plus ni moins, et elle comprit qu'il serait ridicule de le porter plus loin. Elle déposa donc par terre le petit animal et se sentit toute soulagée de le voir trotter tranquillement vers le bois. « S'il avait grandi, se dit-elle, il serait devenu un bien vilain enfant. Tandis qu'il fait un assez joli petit porc, il me semble. » Alors elle se mit à penser à d'autres enfants qu'elle connaissait et qui feraient d'assez jolis porcs si seulement on savait la manière de s'y prendre pour les métamorphoser. Elle était en train de faire ses réflexions lorsqu'elle tressaillit en voyant tout à coup le chat assis à quelques pas de là sur la branche d'un arbre. Le chat grimaça en apercevant Alice. Elle trouva qu'il avait l'air bon enfant, et cependant il avait de très longues griffes et une grande rangée de dents. Aussi comprit-elle qu'il fallait le traiter avec respect. « Grimaçon !» commença-t-elle un peu timidement, ne sachant pas du tout si cette familiarité lui serait agréable. Toutefois, il ne fit qu'allonger sa grimace. « Allons, il est content jusqu'à présent !» pensa Alice. Et elle continua « Dites-moi, je vous prie, de quel côté faut-il me diriger ?»«
Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, » dit le chat.
« Cela m'est assez indifférent, » dit Alice.
« Alors, peu importe de quel côté vous irez, » dit le chat.
« Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en explication.
« Cela ne peut manquer, pourvu que vous marchiez assez longtemps. »
Alice comprit que cela était incontestable. Elle essaya donc d'une autre question. « Quels sont les gens qui demeurent par ici ?»«
De ce côté-ci, » dit le chat, décrivant un cercle avec sa patte droite, « demeure un chapelier. De ce côté-là, faisant de même avec sa patte gauche, demeure un lièvre. Allez voir celui que vous voudrez, tous deux sont fous. »«
Mais je ne veux pas fréquenter des fous, » fit observer Alice.
« Vous ne pouvez pas vous en défendre, tout le monde est fou ici. Je suis fou, vous êtes folle. »«
Comment savez-vous que je suis folle ?» dit Alice.
« Vous devez l'être, » dit le chat. « Sans cela, vous ne seriez pas venue ici. »
Alice pensa que cela ne prouvait rien. Toutefois, elle continua. « Et comment savez-vous que vous êtes fou ?»«
D'abord, » dit le chat, « un chien n'est pas fou. Vous convenez de cela. »
« Je le suppose, » dit Alice.
« Eh bien, » continua le chat, « un chien grogne quand il se fâche et remue la queue lorsqu'il est content. Or, moi, je grogne quand je suis content et je remue la queue quand je me fâche. Donc, je suis fou. »«
J'appelle cela faire le roué et non pas grogner, » dit Alice.
« Appelez cela comme vous voudrez, » dit le chat. « Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui ?»
« Cela me ferait grand plaisir, » dit Alice, « mais je n'ai pas été invitée. »«
Vous m'y verrez, » dit le chat, et il disparut. Alice ne fut pas très étonnée, tant elle commençait à s'habituer aux événements extraordinaires. Tandis qu'elle regardait encore l'endroit que le chat venait de quitter, il reparut tout à coup. « À propos, qu'est devenu le bébé? J'allais oublier de vous le demander. » «
Il a été changé en porc. » dit tranquillement Alice, comme si le chat était revenu d'une manière naturelle.
« Je m'en doutais, » dit le chat, et il disparut de nouveau. Alice attendit quelques instants, espérant presque le revoir, mais il ne reparut pas. Et une ou deux minutes après, elle continua son chemin dans la direction où on lui avait dit que demeurait le lièvre. « J'ai déjà vu des chapeliers, se dit-elle. Le lièvre sera de beaucoup le plus intéressant. » À ces mots, elle leva les yeux et voilà que le chat était encore là, assis sur une branche d'arbre. « M'avez-vous dit port ou porte ?» demanda le chat. « J'ai dit port, » répéta Alice. « Ne vous amusez donc pas à paraître et à disparaître si subitement vous faites tourner la tête aux gens. »« C'est bon, » dit le chat. Et cette fois, il s'évanouit tout doucement, à commencer par le bout de la queue et finissant par sa grimace qui demeura quelque temps après que le reste fut disparu. « Certes, pensa Alice, j'ai souvent vu un chat sans grimace, mais une grimace sans chat, je n'ai jamais de ma vie rien vu de si drôle. » Elle ne fit pas beaucoup de chemin avant d'arriver devant la maison du lièvre. Elle pensa que ce devait bien être là la maison, car les cheminées étaient en forme d'oreille et le toit était couvert de fourrure. La maison était si grande qu'elle n'osa s'approcher avant d'avoir grignoté encore un peu du morceau de champignon qu'elle avait dans la main gauche et d'avoir atteint la taille de 2 pieds environ, et même alors elle avança timidement en se disant « Si après tout il était fou furieux, je voudrais presque avoir été faire visite au chapelier plutôt que d'être venu ici. »
Fin du chapitre 6.
Chapitre 7 de Alice au pays des merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehan. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Traduit par Henri Buet. Chapitre 7. Un thé de fou. Il y avait une table servie sous un arbre, devant la maison, et le lièvre y prenait le thé avec le chapelier. Un loir, profondément endormi, était assis entre les deux autres, qui s'en servaient comme d'un coussin, le coude appuyé sur lui et causant par-dessus sa tête. Bien gênant pour le loir, pensa Alice. Mais comme il est endormi, je suppose que cela lui est égal. Bien que la table fût très grande, ils étaient tous trois serrés l'un contre l'autre, à un des coins. « Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place !» crièrent-ils en voyant Alice. « Il y a abondance de place !» dit Alice, indignée, et elle s'assit dans un large fauteuil à l'un des bouts de la table. « Prenez donc du vin !» dit le lièvre d'un ton engageant. Alice regarda tout autour de la table, mais il n'y avait que du thé. « Je ne vois pas de vin !» fit-elle observer. « Il n'y en a pas, » dit le lièvre. « En ce cas, il n'était pas très poli de votre part de m'en offrir, » dit Alice d'un ton fâché. « Il n'était pas non plus très poli de votre part de vous mettre à table avant d'y être invité, » dit le lièvre. « J'ignorais que ce fût votre table, » dit Alice. « Il y a des couverts pour bien plus de 3 convives. »« Vos cheveux ont besoin d'être coupés, » dit le chapelier. Il avait considéré Alice pendant quelque temps avec beaucoup de curiosité, et ce fut la première parole qu'il lui adressa. « Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques sur les gens. C'est très grossier !» dit Alice d'un ton sévère. À ces mots, le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il se contenta de dire « Pourquoi une pie ressemble-t-elle à un pupitre ?»« Bon, nous allons nous amuser, » pensa Alice. « Je suis bien aise qu'il se mette à demander des énigmes. Je crois pouvoir deviner cela, » ajouta-t-elle tout haut. « Voulez-vous dire que vous croyez pouvoir trouver la réponse ?» dit le lièvre. « Précisément, » répondit Alice. « Alors vous devriez dire ce que vous voulez dire, » continua le lièvre. « C'est ce que je fais, » répliqua vivement Alice. « Du moins, je veux dire ce que je dis. C'est la même chose, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas du tout la même chose, » dit le chapelier. « Vous pourriez alors dire tout aussi bien que « Je vois ce que je mange » et la même chose que « Je mange ce que je vois ». Vous pourriez alors dire tout aussi bien, ajouta le lièvre, que « j'aime ce qu'on me donne » est la même chose que « on me donne ce que j'aime ». Vous pourriez dire tout aussi bien, ajouta le loir qui paraissait parler, tout endormi, que « je respire quand je dors » est la même chose que «
Je dors quand je respire. »
C'est en effet tout un pour vous, dit le chapelier.
Sur ce, la conversation tomba. Il se fit un silence de quelques minutes. Pendant ce temps, Alice repassa dans son esprit tout ce qu'elle savait au sujet des pies et des pupitres, ce qui n'était pas grand-chose.
Le chapelier rompit le silence, le premier. « Quel quantième du mois sommes-nous » dit-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet, la secouant de temps à autre et l'approchant de son oreille.
Alice réfléchit un instant et répondit « Le 4 ».
« Elle est de 2 jours en retard, » dit le chapelier avec un soupir. « Je vous disais bien que le beurre ne vaudrait rien au mouvement, » ajouta-t-il en regardant le lièvre avec colère.
« C'était tout ce qu'il y avait de plus fin en beurre, » dit le lièvre humblement.
« Oui, mais il faut qu'il y soit entré des miettes de pain, » grommela le chapelier. « Vous n'auriez pas dû vous servir du couteau au pain pour mettre le beurre. »
Le lièvre prit la montre et la contempla tristement, puis la trempa dans sa tasse, la contempla de nouveau et pourtant ne trouva rien de mieux à faire que de répéter sa première observation.
« C'était tout ce qu'il y avait de plus fin en beurre. »
Alice avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité. « Quelle singulière montre, » dit-elle. « Elle marque le quantième du mois et ne marque pas l'heure qu'il est. »
« Et pourquoi marquerait-elle l'heure ? » murmura le chapelier.
« Votre montre marque-t-elle dans quelle année vous êtes ?»«
Non, assurément, » répliqua Alice sans hésiter.
« Mais c'est parce qu'elle reste à la même année, pendant si longtemps. »«
Tout comme la mienne, » dit le chapelier.
Alice se trouva fort embarrassée. L'observation du chapelier lui paraissait n'avoir aucun sens, et cependant la phrase était parfaitement correcte.
« Je ne vous comprends pas bien, » dit-elle, aussi poliment que possible.
« Le Loir est rendormi, » dit le chapelier, et il lui versa un peu de thé chaud sur le nez.
Le Loir secoua la tête avec impatience et dit, sans ouvrir les yeux,
« sans doute, c'est justement ce que j'allais dire.
« Avez-vous deviné l'énigme ?» dit le chapelier, se tournant de nouveau vers Alice.
« Non, j'y renonce, » répondit Alice. « Quelle est la réponse ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée, » dit le chapelier.
« Ni moi non plus, » dit le lièvre.
Alice soupira d'ennui. « Il me semble que vous pourriez mieux employer le temps, » dit-elle, « et ne pas le gaspiller à proposer des énigmes qui n'ont point de réponse.
Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier,
« vous ne parleriez pas de le gaspiller. On ne gaspille pas quelqu'un. »«
Je ne vous comprends pas, » dit Alice.
« Je le crois bien, » répondit le chapelier en secouant la tête avec mépris. « Je parie que vous n'avez jamais parlé autant. »
« Cela se peut bien, » répliqua prudemment Alice, « mais je l'ai souvent mal employé. »«
Ah, voilà donc pourquoi. Il n'aime pas cela, » dit le chapelier. « Mais si seulement vous saviez le ménager, il ferait de la pendule tout ce que vous voudriez.
Par exemple, supposons qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de vos leçons. Vous n'auriez qu'à dire tout bas un petit mot au temps, et l'aiguille partirait en un clin d'œil pour marquer 1 heure et demie, l'heure du dîner.
« Je le voudrais bien, » dit tout bas le lièvre.
« Cela serait très agréable, certainement, » dit Alice d'un air pensif.
« Mais alors, je n'aurai pas encore faim, comprenez donc. »«
Peut-être pas d'abord, » dit le chapelier.
« Mais vous pourriez retenir l'aiguille à 1 heure et demie, aussi longtemps que vous voudriez. »«
Est-ce comme cela que vous faites, vous ?» demanda Alice.
Le chapelier secoua tristement la tête.
« Hélas, non, » répondit-il. « Nous nous sommes querellés, au mois de mars dernier. » Un peu avant qu'il devint fou,
il montrait le lièvre du bout de sa cuillère.
C'était un grand concert donné par la reine de cœur, et j'eus à chanter.
« Ah, vous dirai-je, ma sœur, ce qui cause ma douleur. Vous connaissez peut-être cette chanson ?»«
J'ai entendu chanter quelque chose comme ça, » dit Alice.
« Vous savez la suite ?» dit le chapelier. Il continua. « C'est que j'avais des dragées et que je les ai mangées. »
Ici, le Loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant.
« Et que je les ai mangés, 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 mangés. »
Si longtemps qu'il fallut le pincer pour le faire taire.
« Eh bien, j'avais à peine fini le premier couplet, » dit le chapelier, « que la reine hurla.
« Ah, c'est comme ça que vous tuez le temps, qu'on lui coupe la tête. »«
Quelle cruauté !» s'écria Alice.
« Et depuis lors, » continua le chapelier avec tristesse, « le temps
ne veut rien faire de ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures maintenant. » Une brillante idée traversa l'esprit d'Alice. « Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé, ici » demanda-t-elle. « Oui, c'est cela, » dit le chapelier avec un soupir. « Il est toujours l'heure du thé, et nous n'avons pas le temps de laver la vaisselle dans l'intervalle. Alors, vous faites tout le tour de la table, je suppose, » dit Alice. « Justement, » dit le chapelier, « à mesure que les tasses ont servi. Mais qu'arrive-t-il lorsque vous vous retrouvez au commencement ?» se hasarda de dire Alice. « Si nous changions de conversation, » interrompit le lièvre en bâillant. « Celle-ci commence à me fatiguer. Je propose que la petite demoiselle nous conte une histoire. »« J'ai bien peur de n'en pas savoir, » dit Alice, que cette proposition alarmait un peu. « Eh bien, le Loir va nous en dire une, » crièrent-ils tous deux. « Allons, Loir, réveillez-vous » et ils le pincèrent des deux côtés à la fois. Le Loir ouvrit lentement les yeux. « Je ne dormais pas, » dit-il d'une voix faible et enrouée. « Je n'ai pas perdu un mot de ce que vous avez dit, vous autres. « Racontez-nous une histoire, » dit le lièvre. « Ah oui, je vous en prie, » dit Alice d'un ton suppliant. « Et faites vite, » ajouta le chapelier. « Sans cela, vous allez vous rendormir avant de vous mettre en train. » « Il y avait une fois 3 petites sœurs, » commença bien vite le Loir, « qui s'appelaient Elsie, Lassie et Tilly, et elles vivaient au fond d'un puits. « De quoi vivaient-elles ? » dit Alice, qui s'intéressait toujours aux questions de boire ou de manger. « Elles vivaient de mélasse, » dit le Loir, après avoir réfléchi un instant. « Ce n'est pas possible, comprenez donc, » fit doucement observer Alice. « Cela les aurait rendues malades. »« Et en effet, » dit le Loir, « elles étaient très malades. » Alice chercha à se figurer un peu l'effet que produirait sur elle une manière de vivre si extraordinaire, mais cela lui parut trop embarrassant, et elle continua. « Mais pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ?»« Prenez un peu plus de thé, » dit le lièvre à Alice avec empressement. « Je n'en ai pas pris du tout, » répondit Alice d'un air offensé. « Je ne peux donc pas en prendre un peu plus. »« Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins, » dit le chapelier. « Il est très aisé de prendre un peu plus que pas du tout. »« On ne vous a pas demandé votre avis à vous, » dit Alice. « Ah, qui est-ce qui se permet de faire des observations ?» demanda le chapelier d'un air triomphant. Alice ne savait pas trop que répondre à cela, aussi se servit-elle un peu de thé et une tartine de pain et de beurre. Puis elle se tourna du côté du Loir et répéta sa question. « Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ?» Le Loir réfléchit de nouveau pendant quelques instants et dit « C'était un puits de mélasse. »« Il n'en existe pas !» se mit à dire Alice d'un ton courroucé. Mais le chapelier et le lièvre firent « Chut, chut !» et le Loir fit observer, d'un ton bourru, « Tâchez d'être poli, ou finissez l'histoire vous-même » « Non, continuez, je vous prie, » dit Alice très humblement. « Je ne vous interromprai plus. Peut-être en existe-t-il un. »« Un ? Vraiment ?» dit le Loir avec indignation. Toutefois, il voulut bien continuer. « Donc, ces 3 petites sœurs, vous saurez qu'elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour s'en tirer. » « Comment aurait-elle pu s'en tirer ?» dit Alice, oubliant tout à fait sa promesse. « C'est tout simple. Il me faut une tasse propre, » interrompit le chapelier. « Avançons tous d'une place. » Il avançait tout en parlant, et le Loir le suivit. Le lièvre prit la place du Loir, et Alice, d'assez mauvaise grâce, celle du lièvre. Le chapelier fut le seul qui gagnât au change. Alice se trouva bien plus mal partagée qu'auparavant, car le lièvre venait de renverser le lait dans son assiette. Alice, craignant d'offenser le Loir, reprit avec circonspection « Mais je ne comprends pas, comment aurait-elle pu s'en tirer ?»« C'est tout simple, » dit le chapelier. « Quand il y a de l'eau dans un puits, vous savez bien comment on en tire, n'est-ce pas ? Eh bien, d'un puits de mélasse, on tire de la mélasse. Et quand il y a des petites filles dans la mélasse, on les tire en même temps. Comprenez-vous, petite sotte ?»«
Pas tout à fait, » dit Alice, encore plus embarrassée par cette réponse.
« Alors, vous feriez bien de vous taire, » dit le chapelier. Alice trouva cette grossièreté un peu trop forte. Elle se leva indignée et s'en alla. Le Loir s'endormit à l'instant même, et les deux autres ne prirent pas garde à son départ, bien qu'elle regardât en arrière 2 ou 3 fois, espérant presque qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, il cherchait à mettre le Loir dans la théière.
« À aucun prix,
Je ne voudrais retourner auprès de ces gens-là, dit Alice en cherchant son chemin à travers le bois. C'est le thé le plus ridicule auquel j'ai assisté de ma vie. Comme elle disait cela, elle s'aperçut qu'un des arbres avait une porte par laquelle on pouvait pénétrer à l'intérieur. « Voilà qui est curieux, » pensa-t-elle. « Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais bien d'entrer tout de suite. » Elle entra. Elle se retrouva encore dans la longue salle, tout près de la petite table de verre. « Cette fois, je m'y prendrai mieux, » se dit-elle. Et elle commença par saisir la petite clé d'or et par ouvrir la porte qui menait au jardin. Puis, elle se mit à grignoter le morceau de champignon qu'elle avait mis dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle fût réduite à environ 2 pieds de haut. Elle prit alors le petit passage, et enfin, elle se trouva dans le superbe jardin, au milieu des brillants parterres et des fraîches fontaines. Fin du chapitre 7.
Chapitre 8 de Alice au Pays des Merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Alice au Pays de Merveilles de Lewis Carroll, traduit par Henri Buet. Chapitre 8. Le croquet de la reine. Un grand rosier se trouvait à l'entrée du jardin. Les roses qu'il portait étaient blanches, mais 3 jardiniers étaient en train de les peindre en rouge. Alice s'avança pour les regarder, et au moment où elle approchait, elle en entendit un qui disait « Fais donc attention, 5, et ne m'éclabousse pas ainsi avec ta peinture. Ce n'est pas de ma faute, dit 5 d'un ton bourru. C'est 7 qui m'a poussé le coude. » Là-dessus, 7 leva les yeux et dit « C'est cela, 5, jetez toujours le blâme sur les autres. « Vous feriez bien de vous taire, vous, » dit 5. « J'ai entendu la reine dire, pas plus tard que hier, que vous méritiez d'être décapité. « Pourquoi donc cela ?» dit celui qui avait parlé le premier. « Cela ne vous regarde pas, 2, » dit 7. « Si fait, cela le regarde, » dit 5. « Et je veux le lui dire, c'est pour avoir apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu d'oignons à manger. » 7 jeta là son pinceau et s'écria. De toutes les injustices, lorsque ses regards tombèrent par hasard sur Alice, qui restait là à les regarder, et il se retint tout un coup. Les autres se retournèrent aussi, et tous firent un profond salut. « Voudriez-vous avoir la bonté de me dire pourquoi vous peignez ces roses ?» demanda Alice un peu timidement. 5 et 7 ne dirent rien, mais regardèrent 2. 2 commença à voix basse. « Le fait est, voyez-vous, mademoiselle, qu'il devrait y avoir ici un rosier à fleurs rouges, et nous en avons mis un à fleurs blanches, par erreur. Si la reine s'en apercevait, nous aurions tous la tête tranchée, vous comprenez? Aussi, mademoiselle, vous voyez que nous faisons de notre mieux avant qu'elle vienne pour... » À ce moment, 5, qui avait regardé tout le temps avec inquiétude de l'autre côté du jardin, s'écria « La reine, la reine !» Et les 3 ouvriers se précipitèrent aussitôt, la face contre terre. Il se faisait un grand bruit de pas, et Alice se retourna, désireuse de voir la reine. D'abord venaient des soldats, portant des piques. Ils étaient tous faits comme les jardiniers, longs et plats, les mains et les pieds au coin. Ensuite venaient-ils les 10 courtisans. Ceux-ci étaient tous parés des carreaux de diamants et marchaient 2 à 2 comme les soldats. Derrière eux venaient les enfants de la reine. Il y en avait 10, et les petits chérubins gambadaient joyeusement, se tenant par la main 2 à 2. Ils étaient tous ornés de cœurs. Après eux venaient les invités, des rois et des reines pour la plupart. Dans le nombre, Alice reconnut le lapin blanc. Il avait l'air ému et agité en parlant, souriait à tout ce qu'on disait et passa sans faire attention à elle. Suivait le valet de cœur, portant la couronne sur un coussin de velours et fermant cette longue procession, le roi et la reine de cœur. Alice ne savait pas au juste si elle devait se prosterner comme les trois jardiniers, mais elle ne se rappelait pas avoir jamais entendu parler d'une pareille formalité. « Et d'ailleurs, à quoi serviraient les processions » pensa-t-elle. « Si les gens avaient à se mettre la face contre terre de façon à ne pas les voir. » Elle resta donc debout à sa place et attendit. Quand la procession fut arrivée en face d'Alice, tout le monde s'arrêta pour la regarder. Et la reine dit sévèrement, « Qui est-ce ? » Elle s'adressa au valet de cœur qui se contenta de saluer et de sourire pour toute réponse. « Idiot ! » dit la reine en rejetant la tête en arrière avec impatience. Et se tournant vers Alice, elle continua. « Votre nom, petite ? Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté, dit Alice fort poliment. Mais elle ajouta en elle-même, « Ces gens-là ne sont, après tout, qu'un paquet de cartes. Pourquoi en aurais-je peur ?»« Et qui sont ceux-ci ? » dit la reine montrant du doigt les trois jardiniers étendus autour du rosier. Car vous comprenez que, comme ils avaient la face contre terre, et que le dessin qu'ils avaient sur le dos était le même que celui des autres cartes du paquet, elle ne pouvait savoir s'ils étaient des jardiniers, des soldats, des courtisans, ou bien trois de ses propres enfants. « Comment voulez-vous que je le sache ? » dit Alice avec un courage qui la surprit elle-même. « Cela n'est pas mon affaire à moi. » La reine devint pourpre de colère, et après l'avoir considérée un moment, avec des yeux flamboyants comme ceux d'une bête fauve, elle se mit à crier « Qu'on lui coupe la tête !»« Quelle idée !» dit Alice très haut. Et d'un ton décidé, la reine se tut. Le roi lui posa la main sur le bras et lui dit timidement « Considérez donc, ma chère amie, que ce n'est qu'une enfant. » La reine lui tourna le dos avec colère et dit au valet « Retournez-les !» Ce que fit le valet très soigneusement du bout du pied. « Debout !» dit la reine d'une voix forte et stridente. Les trois jardiniers se relevèrent à l'instant et se mirent à saluer le roi, la reine, le jeune prince et tout le monde. « Finissez !» cria la reine. « Vous m'étourdissez !» Alors, se tournant vers le rosier, elle continua. « Qu'est-ce que vous faites donc là ?»« Avec le bon plaisir de votre majesté, » dit deux d'un ton très humble, mettant un genou en terre. « Nous tâchions... »« Je le vois bien !» dit la reine, qui avait pendant ce temps-là examiné les roses. « Qu'on leur coupe la tête !» Et la procession continua sa route, trois des soldats restant en arrière pour exécuter les malheureux jardiniers, qui coururent se mettre sous la protection d'Alice. « Vous ne serez pas décapités, » dit Alice, et elle les mit dans un grand pot à fleurs qui se trouvait près de là. Les trois soldats errèrent de côté et d'autre pendant une ou deux minutes pour les chercher, puis s'en allèrent tranquillement rejoindre les autres. « Leur a-t-on coupé la tête ?» cria la reine. « Leurs têtes n'y sont plus, s'il plaît à votre majesté, » lui crièrent les soldats. « C'est bien !» cria la reine. « Savez-vous jouer au croquet ?» Les soldats ne soufflèrent mot et regardèrent Alice, car évidemment, c'était à elle que s'adressait la question. « Oui !» cria Alice. « Eh bien, venez !» hurla la reine, et Alice se joignit à la procession, fort curieuse de savoir ce qui allait arriver. « Il fait un bien beau temps aujourd'hui !» dit une voix timide à côté d'elle. Elle marchait auprès du lapin blanc, qui la regardait d'un œil inquiet. « Bien beau !» dit Alice. « Où est la duchesse ?»« Chut, chut !» dit vivement le lapin à voix basse, et en regardant avec inquiétude par-dessus son épaule. Puis il se leva sur la pointe des pieds, colla sa bouche à l'oreille d'Alice et lui souffla. « Elle est condamnée à mort !»« Pour quelle raison ?» dit Alice. « Avez-vous dit « Quel dommage !» demanda le lapin. « Non !» dit Alice. « Je ne pense pas du tout que ce soit dommage. Je dis pour quelle raison elle a donné des soufflets à la reine, » commença le lapin. Alice fit entendre un petit éclat de rire. « Oh, chut !» dit tout bas le lapin, d'un ton effrayé. « La reine va vous entendre. Elle est arrivée un peu tard, voyez-vous, et la reine a dit, À vos places !» cria la reine d'une voix de tonnerre. Et les gens se mirent à courir dans toutes les directions, trébuchant les uns contre les autres. Toutefois, au bout de quelques instants, chacun fut à sa place et la partie commença. Alice n'avait de sa vie vu de jeu de croquet aussi curieux que celui-là. Le terrain n'était que billons et sillons. Des hérissons vivants servaient des boules et de flamants de maillets. Les soldats courbés en deux avaient à se tenir la tête et les pieds sur le sol pour former des arches. Ce qui embarrassa le plus Alice au commencement du jeu, ce fut de manier le flamand. Elle parvenait bien à fourrer son corps assez commodement sous son bras, en laissant pendre les pieds. Mais le plus souvent, à peine lui avait-elle allongé le cou bien comme il le faut, et allait-elle frapper le hérisson avec la tête, que le flamand se relevait en se tordant et la regardait d'un air si ébahi qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et puis, quand elle lui avait fait baisser la tête et allait recommencer, il était bien impatientant de voir que le hérisson s'était déroulé et s'en allait. En outre, il se trouvait ordinairement en billon ou en sillon dans son chemin, partout où elle voulait envoyer le hérisson. Et comme les soldats courbés en deux se relevaient sans cesse pour s'en aller d'un autre côté du terrain, Alice en vint bientôt à cette conclusion, que c'était là un jeu fort difficile, en vérité. Les joueurs jouaient tous à la fois, sans attendre leur tour, se querellant tout le temps et se battant à qui aurait les hérissons. La reine entra bientôt dans une colère furieuse et se mit à trépigner en criant « Qu'on coupe la tête à celui-ci » ou bien « Qu'on coupe la tête à celle-là » une fois environ par minute. Alice commença à se sentir très mal à l'aise. Il est vrai qu'elle ne s'était pas disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait lui arriver à tout moment. « Et alors, pensa-t-elle, que deviendrai-je ? Ils aiment terriblement à couper la tête aux gens ici. Ce qui m'étonne, c'est qu'il en reste encore des vivants. » Elle cherchait autour d'elle quelques moyens d'échapper et se demandait si elle pourrait se retirer sans être vue. Lorsqu'elle aperçut en l'air quelque chose d'étrange, cette apparition l'intrigua beaucoup d'abord, mais après l'avoir considérée quelques instants, elle découvrit que c'était une grimace et se dit en elle-même « C'est le grimaçon. Maintenant j'aurai à qui parler. Comment cela va-t-il ? » dit le chat, quand il y eut assez de sa bouche pour qu'il pût parler. Alice attendit que les yeux parussent et lui fit alors un signe de tête amical. « Il est inutile de lui parler, » pensa-t-elle, « avant que ses oreilles soient venues, l'une d'elles, tout au moins. » Une minute après, la tête se montra tout entière. Et alors Alice posa à terre son flamand et se mit à raconter sa partie de croquet, enchantée d'avoir quelqu'un qui l'écouta. Le chat trouva apparemment qu'il s'était assez mis en vue, car sa tête fut tout ce qu'on en aperçut. « Il ne joue pas du tout franc jeu, » commença Alice d'un ton de mécontentement. « Et il se querelle tout si fort qu'on ne peut pas s'entendre parler, et puis on dirait qu'ils n'ont aucune règle précise. Du moins, s'il y a des règles, personne ne les suit. Ensuite, vous n'avez pas idée comme cela embrouille que tous les instruments du jeu soient vivants. Par exemple, voilà l'arche par laquelle j'ai à passer qui se promène là-bas, à l'autre bout du jeu. Et j'aurais fait croquer sur le hérisson de la reine tout à l'heure, s'il ne s'était pas sauvé en voyant venir le mien. « Est-ce que vous aimez la reine ?» dit le chat à voix basse. « Pas du tout, » dit Alice. « Elle est si. » Au même instant, elle aperçut la reine tout près, derrière elle, qui écoutait. Alors, elle continua. Si sûre de gagner que ce n'est guère la peine de finir la partie. La reine sourit et passa. « Avec qui causez-vous donc là ?» dit le roi, s'approchant d'Alice et regardant avec une extrême curiosité la tête du chat. « C'est un de mes amis, un grimaçon, » dit Alice. « Permettez-moi de vous le présenter. » « Sa mine ne me plaît pas du tout, » dit le roi. « Pourtant, il peut me baiser la main, si cela lui fait plaisir. »« Non, grand merci, » dit le chat. « Ne faites pas l'impertinent, » dit le roi, « et ne me regardez pas ainsi. » Il s'était mis derrière Alice en disant ces mots. « Un chat peut bien regarder un roi, » dit Alice, J'ai lu quelque chose comme cela dans un livre, mais je ne me rappelle pas où. « Eh bien, il faut le faire enlever, » dit le roi d'un ton très décidé. Et il cria à la reine qui passait en ce moment, « Mon ami, je désirerais que vous fissiez enlever ce chat. » La reine n'avait qu'une seule manière de trancher les difficultés, petites ou grandes. « Qu'on lui coupe la tête, » dit-elle sans même se retourner. « Je vais moi-même chercher le bourreau, » dit le roi avec empressement. Et il s'en alla précipitamment. Alice pensa qu'elle ferait bien de retourner voir où en était la partie, car elle entendait au loin la voix de la reine qui criait de colère. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête coupée, parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les choses. Car le jeu était si embrouillé qu'elle ne savait jamais quand venait son tour. Elle alla à la recherche de son hérisson. Il était en train de se battre avec un autre hérisson, ce qui parut à Alice une excellente occasion de faire croquet de l'un sur l'autre. Il n'y avait à cela qu'une difficulté, et c'était que son flamand avait passé de l'autre côté du jardin, où Alice le voyait qui faisait de vains efforts pour s'enlever et se percher sur un arbre. Quand elle eut rattrapé et ramené le flamand, la bataille était terminée et les 2 hérissons avaient disparu. « Mais cela ne fait pas grand-chose, » pensa Alice, puisque toutes les arches ont quitté ce côté de la pelouse. Elle remit donc le flamand sous son bras pour qu'il ne lui échappât plus et retourna causer un peu avec son amie. Quand elle revint auprès du chat, elle fut surprise de trouver une grande foule rassemblée autour de lui. Une discussion avait lieu entre le bourreau, le roi et la reine, qui parlaient tous à la fois, tandis que les autres ne soufflaient mot et semblaient très mal à l'aise. Dès que parut Alice, ils en appelèrent à elle tous les 3 pour qu'elle décidât la question et lui répétèrent leur raisonnement. Comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de peine à comprendre ce qu'ils disaient. Le raisonnement du bourreau était qu'on ne pouvait pas trancher une tête, à moins qu'il n'y ait eu un corps d'où l'on pût la couper, que jamais il n'avait eu pareille chose à faire et que ce n'était pas à son âge qu'il allait commencer. Le raisonnement du roi était que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité et qu'il ne fallait pas dire des choses qui n'avaient pas de bon sens. Le raisonnement de la reine était que si la question ne se décidait pas en moins de rien, elle ferait trancher la tête à tout le monde à la ronde. C'était cette dernière observation qui avait donné à toute la compagnie l'air si grave et si inquiet. Alice ne trouva rien de mieux à dire que « Il appartient à la duchesse. C'est elle qui vous feriez bien de consulter à ce sujet. Elle est en prison, » dit la reine au bourreau. « Qu'on l'amène ici. » Et le bourreau partit comme un trait. La tête du chat commença à s'évanouir aussitôt que le bourreau fut parti, et elle avait complètement disparu quand il revint accompagné de la duchesse. De sorte que le roi et le bourreau se mirent à courir de côté et d'autre comme des fous pour trouver cette tête, tandis que le reste de la compagnie retournait au jeu. Fin du chapitre 8.